c'est Sébastien Barre qui m'a liké un de mes messages. Là.
Je te trouve vachement populaire quand même, parce que déjà Lincoln juste avant, Bach maintenant.
C'est pas mal, c'est pas mal.
Bonjour Maïeux.
Salut Davoro.
Aujourd'hui, on a un épisode en vrac où on va causer de diverses choses sans lien entre elles. Mmh. Avant tout ça, rafraîchissons-nous avec un petit peu de thé. Qu'est-ce que tu bois aujourd'hui ?
Aujourd'hui, je bois un jasmin céleste de Gyeongchan, qui est dans la région du Fujian en Chine. Alors, donc, c'est un thé au jasmin qui est comme les perles de jasmin, c'est-à-dire c'est vraiment un thé qui est manufacturé en boule. Sauf qu'au lieu d'avoir utilisé un thé vert, là, ils ont utilisé un thé blanc et vraiment les bourgeons, et je crois, dans les premières récoltes de l'année. Si vous avez déjà goûté les perles de jasmin ou ce style de thé, c'est ce style, mais en beaucoup plus doux sur la partie thé. Comme les perles de jasmin, c'est fait par... les fleurs ne sont pas en contact direct avec le thé, il n'y a plus de fleurs dans le thé non plus, donc c'est uniquement par présence que le thé a absorbé les différentes notes de jasmin. Il y a une finesse qui est beaucoup plus intéressante, je trouve, et où il y a plus un équilibre thé jasmin que dans les thés au jasmin ou de fleurs, où là c'est vraiment, on dirait que c'est que du jasmin et que le thé est presque accessoire, quoi. Et toi, qu'est-ce que tu bois ?
Je bois un pu'er, on m'a offert une demi-galette qui est en fait un assemblage de deux pu'er. Il y a un pu'er chou et un pu'er sheng. C'est pas breton, même si le pu'er chou sheng, je trouve ça très drôle.
Et je crois qu'il y a des plantations de thé en Bretagne, donc il y aurait un truc à faire, je crois.
Ah ouais, incroyable. Et puis, j'ai pas l'habitude du tout de boire du pu'er. Je crois que j'ai pas dû en boire depuis, je sais pas, 2 ans, un truc comme ça. Ça fait pas mal de diversité, du coup, de retrouver des notes assez boisées, un petit peu terreuses comme ça. Peut-être légèrement cuir aussi. Je sais pas lequel des deux de l'assemblage est légèrement fumé, parce que tu sens sur la galette une odeur de fumée un peu.
Ouais.
C'est chouette pour l'hiver, là. Ça a beaucoup de corps quand même. La liqueur, donc la couleur du liquide, quoi, est très, très, très foncée. Là, j'ai vraiment un truc puis opaque, quoi. Mais j'aime bien. Je croyais que les pu'ers, c'était pas trop mon truc, parce que souvent, c'est très fort et je préfère peut-être un peu plus de finesse. Mais ouais, non, là, vraiment très, très cool d'avoir quelque chose un peu plus rentre-dedans, quoi. Tu sens vraiment que c'est bien, bien présent, quoi.
Les pu'ers, l'infusion compte beaucoup, je trouve, sur le ressenti derrière. Et c'est facile de passer un seuil où ça devient trop fort. Fort, ça ne veut pas forcément dire grand-chose, mais oui, certaines notes ne sont pas forcément très agréables. Mais du coup, dans les pu'ers qui sont comme ça, il ne faut pas hésiter à soit les faire un peu moins chauds, soit les faire moins longtemps aussi.
Le distributeur disait 5 minutes à 95 degrés. Mm-hmm. Ce qui me paraît être un standard pour le pu'er, je sais pas, ou c'est peut-être plus longtemps les pu'er d'habitude.
Entre 3 et 5 minutes, je pense, la norme.
Je le goûte vraiment à l'instant, donc c'était sa première infusion. Je me demande combien de fois je vais pouvoir le faire infuser. Est-ce que ce sera 3, 5, 10 ?
Et je confirme qu'il y a au moins 4 cultivateurs de thé en Bretagne, donc le pu'er chou-sheng, lancez-vous.
Aujourd'hui, plusieurs sujets en vrac et on va commencer par un des tiens. Tu avais envie de parler d'Exane. Qu'est-ce que c'est ?
Alors oui, on va commencer par les 2-3 points les moins fun. On parlait dans 2 épisodes précédents de pollution et de scandales sanitaires au final. Et là, il y en a un nouveau. Greenpeace a publié le 22 septembre apparemment de cette année, donc. Un rapport à propos de la découverte de présence d'hexane dans tout ce qui est huile. L'hexane, c'est un dérivé de pétrole qui est connu comme étant cancérogène, mutagène, reprotoxique, neurotoxique aussi.
Pas super pour la santé.
De manière générale, c'est pas génial. Il est utilisé en fait pour faciliter l'extraction de l'huile dans tout ce qui est graines, type graines de tournesol, graines de colza. Toutes ces huiles qui sont extraites avec principalement des graines, mais aussi tous les endroits en fait, où il y a peu d'huile et on veut maximiser l'extraction.
Ouais.
Normalement, c'est quelque chose qui n'était pas censé se retrouver dans l'huile à la fin. comme c'est un truc qui est utilisé dans la production intermédiaire, c'est pas un ingrédient, donc il n'y avait pas non plus vraiment de vérification à la fin, ou alors peut-être qu'il y a eu des vérifications et que ça a été caché. Mais bref, résultat, il y a des traces d'hexane dans beaucoup, beaucoup de produits non bio. Donc un point que j'ai vérifié, et je mettrai des liens dans les références, c'est qu'en tout cas en France et en Suisse, les labels bio, donc pour la France agriculture biologique et pour la Suisse bio-suisse, ne permettent pas l'utilisation de solvants pour extraire les huiles. On doit extraire les huiles sans solvant, et donc il n'y a pas ce problème. Par contre, Greenpeace alerte que dans 60% des produits qu'ils ont essayés, donc non bio, il y a des traces d'hexane, dont du lait infantile, un peu tous les beurres tendres, ce genre de choses, et puis les huiles, colza, tournesol, qu'ils ont pu tester. 60% de tout ça contient de l'hexane.
Super.
Ce qui n'est pas fou.
Non, en effet.
Vérifiez ce que vous mangez.
Est-ce que tu sais s'il y a mention d'une différence avec les extractions à froid ou pas ? Genre, est-ce que si tu as le label extraction à froid, ça t'évite d'avoir de l'hexane ?
J'ai pas lu le rapport complet, mais dans l'article, il parle pas de ça. Il précise juste que le label bio ne permet pas l'utilisation de ça.
Donc, on est sûr, s'il y a le label bio, qu'il y aura pas de présence d'hexane. Mais s'il y a pressage à froid, peut-être qu'il y a pas, mais peut-être qu'il y a quand même. Là, tu sais pas.
Ouais. Ça concerne bien uniquement les huiles qui viennent de graines. Donc l'huile d'olive, par exemple, n'est pas touchée parce que l'huile, elle vient de la chair de l'olive et pas du noyau.
Ouais, donc concrètement, ça veut dire huile de colza, huile de tournesol, huile de soja, huile de pépins de raisin, ce genre-là, quoi.
Sûrement tout ce genre de choses en plus.
Entre guillemets, la bonne nouvelle, c'est que la solution, elle est facile. Il suffit de ne pas utiliser l'hexane, on peut quand même extraire de l'huile. On aura juste moins par kilo de graines.
Dans ce cas-là, c'est juste une baisse de productivité et pas quelque chose qui empêcherait l'usage final. Puisque le bio y arrive, c'est que c'est possible sans.
Est-ce que tu as d'autres choses sur des polluants aussi ?
Deuxième point polluant, j'ai découvert un site récemment, alors là spécifiquement pour la France uniquement, qui s'appelle danmoneau.fr et c'est une carte interactive des polluants détectés par le gouvernement. Là, donc c'est basé sur des données étatique, on va dire.
C'est un peu les trucs open data.
Exactement, parce qu'il y a quelques années, ils ont ouvert beaucoup, beaucoup de données en open data, et donc plein de gens se sont mis à faire plein de trucs intéressants. Et l'un de ces trucs intéressants récents, c'est toutes les analyses de la qualité de l'eau et des polluants présents dans l'eau.
Ah, ça, c'est vraiment bien.
La carte est vraiment très visuelle. C'est pas par région, c'est vraiment par zone, presque au niveau d'une ville, en fait. C'est sûrement découpé en fonction des limites, pas production d'eau, mais de
captation ou...
Oui, voilà. Ouais,
genre le réseau d'eau potable du coin. Et...
Si vous habitez dans le nord de la France, je vous conseille très fortement d'y aller parce que le nord est particulièrement touché en polluant au point où normalement, il ne faudrait pas boire l'eau dans certains endroits. Donc, allez voir la carte vraiment. Quand vous allez ouvrir la carte, en jaune, ça veut dire qu'il y a au moins un polluant détecté, mais dans les limites qui sont considérées comme sûres pour l'instant, évidemment. Et à partir de orange, c'est qu'il y a au moins un polluant qui dépasse les limites de qualité définies pour l'instant comme non sûres. À noter que ça concerne aussi les DOM et les TOM. Ces endroits-là sont les moins touchés avec du vert et du jaune globalement. Le nord de la France est particulièrement touché et un peu le centre de la France, tout ce qui est entre Limoges et Brive-la-Gaillarde.
Il n'y a quand même pas beaucoup de verre hein, à l'échelle du territoire.
Non, il n'y a pas beaucoup de verre à l'échelle du territoire. Après, le jaune, donc c'est un polluant dans les limites.
Ouais.
Le problème des limites, c'est que quelque chose qu'on considérait comme sûr il y a 10 ans, on ne le considère plus comme sûr aujourd'hui. Donc oui, c'est quand même problématique que la grande majorité du territoire soit jaune.
J'ai cliqué au pif sur plein de zones et je vois le truc qui revient mais quasiment tout le temps dans les zones jaunes. Hein, c'est la présence de nitrates des engrais, hein, je pense, les nitrates.
C'est les engrais qui mettent ça dans l'eau. Pesticides, nitrates, c'est les choses les plus présentes, ce que j'ai pu voir dans les jaunes. Il n'y a pas tous les polluants qui sont sur la carte. Ceux qui sont présents sur la carte, c'est pesticides, nitrates, les PFAS, CVM et perchlorate. CVM, c'est chlorure de vinyle monomère et perchlorate. D'accord. Je ne sais pas exactement d'où c'est. Hein. Mais il y a une petite FAQ en dessous aussi avec comprendre d'où viennent les différents polluants.
Donc actuellement, il n'y a pas les pollutions aux métaux lourds, par exemple, genre cadmium ou ce genre de choses-là.
Alors, pas sur cette carte. Je ne sais pas s'il y a des données publiées qui permettraient de les ajouter sur la carte. Mais je pense qu'ils ont fait un choix de se concentrer sur ceux-là spécifiquement.
Puis il n'y a pas non plus la qualité microbiologique, donc s'il y a des bactéries ou autres, c'est pas leur but.
Ouais.
Mais c'est déjà une très bonne source d'information.
Parce que là, c'est vraiment des choses où tout ce qui est les problèmes de pesticides et de nitrates, y a une solution qui est facile, c'est arrêter d'utiliser des pesticides qui sont trop forts et surtout trop synthétiques. Mmh. Et je pense qu'ils ont voulu aussi faire une carte, c'est ce que moi je pense, c'est pas du tout ce que j'ai lu sur le site. Mais qu'ils ont voulu faire une carte qui montrait un peu les choses où on pouvait avoir un pouvoir d'action assez rapide.
Est-ce qu'on attaque quelque chose d'un petit peu plus léger? Pour rire un tout petit peu, j'aimerais juste parler de Palmzy, qui est un faux réseau social que j'ai dû trouver sur un article il y a à peu près une année. Je ne crois pas qu'il a été mis à jour depuis, mais je trouve l'expérience un peu rigolote. Pour essayer peut-être de se débarrasser de l'addiction aux réseaux sociaux, mais de quand même avoir la petite joie de...
La dopamine.
Voilà, la dopamine d'un réseau social. C'est donc ce que propose Palmzy. On publie avec des grosses guillemets quelque chose, mais en fait, ça ne quitte pas notre téléphone. Et les likes qu'on va recevoir en retour sont complètement faux. C'est l'application qui les génère.
C'est ça.
On peut donner à l'app accès à nos contacts et dans ce cas-là, les personnes qui vont générer les fausses interactions, ce sera leurs noms qui vont apparaître. Quoi. Et si on ne donne pas à l'application accès à nos contacts, ce sera juste des noms aléatoires. Et...
Exactement.
Donc si vous avez envie de croire que vos amis vous aiment bien et qu'ils vous mettent des likes, donnez l'accès aux contacts. Quoi. Je ne sais pas quoi en penser. D'un côté, c'est rigolo, comme petite expérience. Et peut-être comme... statement, comment on dit ça?
Comme un message ou...
Pour dire, regardez, même si c'est faux, vous avez quand même la dopamine qui vient, même si vous savez que c'est faux, ça fait quand même plaisir d'avoir des petits numéros qui montent. Ouh. Puis de l'autre côté, je sais pas, est-ce que c'est pas terriblement cynique de « Ah, j'utilise quand même parce que j'ai besoin de ça » au lieu de « On s'en fout, en fait ». Quelle est l'utilité d'un réseau social si ce qu'on en cherche, c'est que d'avoir des likes qui montent enfin...
Mais là, j'ai installé l'app, justement, et il y a Abraham Lincoln qui vient de liker un de mes posts, donc je suis très content.
Est-ce que ça peut servir à des gens qui sont addicts, quand même ou...
Je pense que c'est juste une manière fun de dénoncer ça, de souligner cette tendance à juste vouloir des likes.
Parce que là, tu l'as installé, tu penses que tu vas l'utiliser plus que les 3 minutes qui suivent ou...
Non, je ne pense pas. Je pense qu'à la fin de cet enregistrement, je vais la désinstaller. Ça ne me sert pas à grand-chose. Mais par contre, quand on crée un post, en fait, donc on envoie avec des guillemets toujours le post, puisque rien ne quitte le téléphone. Et après, si vous avez accepté les notifications, vous allez recevoir des vraies notifications sur votre téléphone qui vous disent machin a liké votre message, etc. Donc,
c'est faux et on peut quand même être distrait, c'est génial.
Exactement.
Allez, autre petit truc un petit peu technique. J'avais vu il y a une bonne année un Kickstarter pour des grands écrans e-ink. Là, c'est un écran 25 pouces en l'occurrence. C'est sorti apparemment avec peut-être toutes les guillemets de « ça vient de Chine » sur leur shop à eux. Donc la diffusion n'est pas gigantesque, quoi, mais apparemment, on peut les acheter. Donc écran e-ink, ça veut dire que c'est de l'encre liquide qui sert à afficher les images. Mais pour maintenir l'image, il n'y a pas besoin d'électricité, donc ça consomme beaucoup moins d'énergie. Et aussi, pour le confort des yeux, ça peut être vachement mieux qu'un écran classique, parce que ce n'est pas forcément nécessaire de les éclairer. Parce que c'est comme du papier, s'il y a assez de lumière à l'extérieur, on le voit. Mmh. Alors que les écrans LCD dont on a l'habitude, ou OLED aussi, l'écran doit générer sa lumière, sinon on ne verra rien. L'écran 25 pouces couleur, il a qu'un taux de rafraîchissement de 33 images par seconde, ce qui n'est pas fou pour un écran, mais ce qui est très bien pour un écran e-ink, ça commence à devenir utilisable pour lire du texte, pour en taper, même pour surfer sur internet. Je pense que les vidéos, ce sera un peu moyen quand même, mais
t'es sûr.
Et il propose aussi un écran 10 pouces, donc c'est l'équivalent d'un iPad à peu près, en noir et blanc à 60 Hz. Donc là, on a un taux de rafraîchissement qui est tout à fait acceptable. Hein. Mon écran de PC, il est à 60 Hz par exemple, et ça marche très bien. Mmh. Je trouve ça cool que la technologie se développe. dans ce sens-là, parce que j'aimerais bien voir des écrans e-ink un peu partout, parce que ça consomme moins d'électricité, parce que c'est agréable pour les yeux.
On peut l'utiliser uniquement en lumière indirecte, donc utiliser la lumière de sa pièce pour éclairer l'écran. Et ça, ça rend les écrans e-ink très intéressants. Ils sont beaucoup utilisés de nos jours, bah, c'est assez connu sur les liseuses numériques.
C'est là qu'on les retrouve le plus facilement, hein, d'ailleurs.
À un moment donné, j'avais un peu considéré acheter un écran comme ça pour essayer, principalement pour le code, parce que c'est typiquement quelque chose où on n'a pas besoin d'un taux de rafraîchissement qui soit hallucinant. Je pense que pour ce genre d'utilisation, ça doit être pas mal. Après, moi, récemment, j'ai changé de liseuse. Je me suis acheté d'occasion une Books Palma 2. Ça a la forme et la taille d'un smartphone, mais il n'y a pas de carte SIM, il n'y a pas de partie téléphone, en fait.
C'est plus petit qu'un Kindle ou un Kobo, ce genre de truc.
Ça tient dans une main, là, vraiment. Et pour lire, j'en suis content. À partir du moment où j'ai ouvert l'application pour lire et que je lis, ben, ça va. Mais je trouve que toutes les interactions type smartphone auxquelles on est habitué, sur un écran e-ink, c'est quand même assez bizarre. La réactivité est quand même pas... C'est un peu dur à savoir. Est-ce que c'est la faute de l'écran? Est-ce que c'est le matériel qui est utilisé en dessous? Est-ce que c'est Android? Parce que c'est Android aussi. Je ne suis pas du tout habitué à Android. Mais les mouvements qui, sur iPhone, me paraissent très naturels, en fait, là, à chaque fois, c'est un peu... Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça ne va pas marcher? Pour la partie lecture, bah, c'est très bien. Mais dès qu'il faut changer d'application, s'il y a besoin de changer d'application, globalement, moi, j'ai qu'une application que j'utilise dessus qui est mon application de lecture de livres. Donc, ce n'est pas non plus... des choses que je fais souvent. Mais voilà, donc je ne sais pas trop. Sur un écran comme ça d'ordinateur, ce sera différent, puisqu'évidemment, il n'y a pas ce côté tactile. Tout sera contrôlé par le clavier ou la souris. Mais il y a un peu ce côté où... Est-ce qu'il ne va pas y avoir ce petit lag, ce petit temps de réaction supérieur auquel on n'est pas habitué et qui va faire que c'est bizarre à utiliser?
Sur l'écran couleur 25 pouces à 33 Hz, donc 33 images par seconde, je pense qu'on voit ce petit temps de réaction. Si on... fait des tâches où l'image change beaucoup, comme regarder une vidéo, scroller très vite, s'il faut déplacer des choses. Quoi. Par contre, je pense que pour écrire du texte, ça, il n'y a pas de problème, parce que c'est juste quelques caractères qui s'affichent et du coup, c'est pas trop gênant. Cela dit, en tout cas, c'est ce qu'ils promettent, hein, d'avoir un écran là, le 10 pouces qui est à 60 Hz, mais seulement en noir et blanc. Mais je pense que 60 Hz, c'est sûr que ça marche. Quoi. Après, c'est que en noir et blanc, donc qu'est-ce qu'on fait avec? Et c'est que 10 pouces aussi. Mais comme, petit écran de voyage pour avoir un mini-ordinateur avec, ça peut être pas mal. Hein. Donc bon, intéressant là, comme développement technologique plutôt que le reste. Je pense pas que je me lancerais pour acheter un truc comme ça, mais j'aimerais bien que ça progresse un peu plus. Ah, l'autre point négatif aussi, les deux marques qu'on a trouvées qui font ça, c'est très cher, ce qui est normal parce qu'il y a une petite production, mais c'est un bon début, mais j'aimerais bien que ça se développe plus.
Le 25 pouces en couleur, il a 1748 $. C'est des écrans qui sont extrêmement chers quand on compare avec je sais pas, le mien déjà, qui est plutôt haut de gamme, n'a coûté qu'un tiers de ce prix, je crois.
Parce que c'est dans l'air du temps, je voulais mentionner la fin de Windows 10 et le passage un petit peu forcé à Windows 11. Microsoft a décidé qu'il ne fournirait plus de mise à jour pour Windows 10. Alors, il y a une petite astérisque. En Europe, on y a encore droit une année de plus. Il reste qu'il y a plein de PC qui ne peuvent pas passer à Windows 11 pour des raisons de compatibilité matérielle. Donc, quelle solution? Soit changer de machine, ce qui est un peu dommage alors qu'elle marche très bien. Soit peut-être, et c'est là où je voulais en venir, passer à Linux. Et il se trouve que je trouve que c'est incroyablement bien pour tout le monde aujourd'hui, Linux. C'est devenu très facile d'utilisation pour des tâches simples et courantes. Si vous voulez juste surfer sur Internet, taper des documents texte et avoir quelques petites applications en plus qui font plein de choses, hein. Ça marche très bien. Le point le plus surprenant, personnellement, je trouve que GNOME, qui est un des environnements de bureau qu'on peut avoir, c'est l'expérience utilisateur la plus agréable aujourd'hui, même mieux, à mon avis, que macOS. Et c'est vraiment une surprise pour moi, un peu. Et une déception, parce que j'aime beaucoup ce que fait Apple. Hein. Enfin, ma machine principale, c'est un Mac. Mais sur mon laptop, j'ai la distribution Fedora, donc c'est une variante de Linux. C'est un package, si on veut bien. Et Fedora vient avec l'environnement de bureau GNOME, et c'est tellement agréable à utiliser. Les applications sont très, très propres. C'est très, très clair. C'est très facile d'accès aussi. C'est devenu, à mon avis, mieux que l'interface du Mac où Apple, ils se perdent un peu. Liquid Glass, je trouve ça vraiment pas agréable.
Oui, j'ai un peu cette sensation aussi que Windows et macOS, de plus en plus, ils sortent de l'essentiel d'une certaine manière. Avec cette course aux IA partout, aussi, ce genre de choses, on a l'impression qu'ils font un peu des choses juste pour faire des choses et plus pour que ce soit un bon outil à utiliser au jour le jour. Mais c'est intéressant de savoir que GNOME, donc quand on parle d'environnement de bureau, c'est quand vous lancez Windows ou macOS, vous tombez tout de suite dans ce qu'on appelle techniquement un environnement de bureau, c'est-à-dire donc les fenêtres, certaines applications qui viennent avec l'ordinateur par défaut, les configurations de l'ordinateur, le design des fenêtres, etc. C'est ce qu'on va inclure dans ce qu'on appelle l'environnement de bureau.
Comment lancer ces programmes aussi, donc le menu de démarrer Windows par exemple, ou bien le dock du Mac. Tout ça, ça fait partie de l'environnement de bureau. Oui.
C'est intéressant de voir que oui, GNOME, qui est là depuis très longtemps, a bien évolué et s'est concentré sur l'expérience utilisateur aussi. C'est bien de voir qu'ils y réussissent apparemment. Ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé moi, ce genre d'environnement de bureau.
Moi qui suis ça par un petit peu intérêt, mais sans avoir un usage intensif, quoi. Mais depuis pas mal de temps. Je suis tout à fait d'accord avec les critiques de l'époque qui disaient « oui, mais bon, on ne s'y retrouve pas, ou c'est pas très clair, ou c'est moche, ou voilà. » Linux en général, hein, pas forcément GNOME, mais en tout cas Linux. Mm-hmm. Et c'était vrai, et ça peut toujours être vrai si on va prendre des trucs obscurs pour des utilisateurs très avancés qui s'en foutent de l'apparence. Mais par contre, aujourd'hui, pour tout un chacun, ben, des environnements comme GNOME ou KDE sont... très léché, il y a un gros effort qui est fait sur le design, sur la lisibilité, sur la facilité d'utilisation et d'accès. Donc si par hasard vous êtes dans le cas où vous êtes sous Windows 10 mais que vous ne pouvez pas passer à Windows 11 ou que vous n'avez pas envie, parce qu'honnêtement Windows 11, pour l'avoir vu tourner, c'est horrible, toutes les pubs, toutes les essais de vous attraper votre attention pour utiliser l'IA et ce genre de machin. Enfin bref, si ça ne vous intéresse pas de passer à Windows 11 mais que vous ne pouvez pas rester sur Windows 10, eh ben, je vous recommande de jeter un œil du côté de Linux, peut-être, avant d'envisager un Mac, parce que bah, c'est super bien. Faites une recherche sur Fedora, Linux Mint, c'est deux distributions faciles à utiliser. Si vous êtes plutôt joueur ou joueuse et que vous voulez faire fonctionner vos jeux vidéo, il y a des distributions exprès pour ça, qui se basent sur les travaux de SteamOS, donc du Steam Deck de Valve. Chimera OS... en français, Chimera, C-H-I-M-E-R-A, OS, où tout est déjà optimisé pour que Steam soit préinstallé, qu'il y ait des launchers de jeux pour les autres stores, genre Epic, Battle.net, etc. Et pour que vous puissiez jouer à vos jeux Windows sous Linux, étonnamment, ça marche très bien, et des fois même avec de meilleures performances en jeu. Une preuve que Microsoft fait n'importe quoi avec Windows 11.
Sur le jeu vidéo, je trouve le travail donc de Valve, qui est à la base uniquement un éditeur de jeux et qui a créé cette plateforme de distribution de jeux qui s'appelle Steam. C'était il y a quoi, 5-6 ans qu'ils ont annoncé leur propre variation de Linux, donc SteamOS, il me semble, avec vraiment comme but avoué de dire non, mais on va remplacer Windows. Et donc, ils ont fait un travail de fond pour... jouer et faciliter le jeu sans qu'il y ait besoin de Windows. Je pense qu'on atteint un point où il n'y a peut-être plus besoin, selon ce à quoi on joue, d'avoir Windows du tout.
Un ami qui est passé entièrement sous Linux il y a une année et il ne se plaint pas, il n'y a pas de problème, il peut jouer à tout ce qu'il veut. De temps en temps, la dernière grosse sortie doit peut-être attendre 4-5 mois que l'adaptation se fasse bien. Voilà. Mais il dit ça me va très bien, bah, c'est aussi le temps que les éditeurs de jeux corrigent les bugs.
On a une version plus léchée au final, à la fin. Je regardais la liste des jeux supportés dans Chimera OS, il y a une liste un peu, et puis ouais, il y a plein de choses, dont les gros jeux, on va dire, pas que des choses indie et ce type de choses.
Pour conclure, à moins que vous ayez des applications très très spécifiques qui ont vraiment besoin de Windows et qui n'existent que là-bas, jetez un œil sur Linux, en fait, vous serez probablement agréablement surpris et surprise. Ça marche bien et c'est très agréable à utiliser. On va conclure l'épisode là avec quelques petites recommandations culture. Mayo, je te laisse commencer peut-être.
Moi, dans mon cas, c'est la vieille culture, on va dire. C'est pas tout à fait vrai. Il y a un lien qui est relativement récent. Mais cet été, j'ai acheté un mix livre-photo presque, qui s'appelle Sinomonstrus de Boulet. Quand Pokémon Go était sorti, donc ce jeu sur téléphone mobile où il faut sortir dans la rue pour aller chasser des Pokémon pour de vrai, il y a eu toute une phase où en France, la sortie s'est fait retarder. Pour installer le jeu, il fallait installer des versions entre guillemets piratées du jeu. C'était le seul moyen d'y jouer en France pour les deux premiers mois, je crois. Et il est parti de cette idée de quelqu'un qui installe une version piratée du jeu, sauf que c'est une version piratée du jeu qui est vraiment morbide. C'est pas du tout les jolis Pokémon enfantins, etc. Là, on est sur du vrai monstre. Il crée une histoire à partir de ce point de départ et j'ai beaucoup aimé la manière dont c'était fait, le fait donc, et l'idée, c'est qu'il prenait des vraies photos qu'il prenait lui sur son téléphone ou des anciennes photos à lui et il dessinait un monstre dans la photo. Tout le livre est construit comme ça et via des petits paragraphes de texte qui décrivent en fait chaque monstre, il fait avancer l'histoire de cette personne, plus ou moins lui, qui a installé cette version piratée de Pokémon Go.
De ce que je comprends, il y a aussi tout un truc qui tourne autour de la tradition du creepypasta. Donc, ça raconte une histoire de oui, mais en fait, c'est quand même vrai. Ces monstres sont vraiment là. Il y a ce petit côté surnaturel qui a l'air d'être très chouette.
La personne pense que tout est virtuel, mais en tout cas, en tant que lecteur, on comprend très vite qu'il y a un impact sur le monde de cette personne dans les premières pages. Donc, je ne spoil rien. J'ai trouvé ça très bien. J'aime pas trop les trucs d'horreur ou de manière générale. Et puis là, je veux pas du tout trouver ça flippant ou quoi que ce soit. Mais on sent, ouais, il y a un peu un côté tension, presque thriller, avec des recherches de gens, etc. Retrouver des informations. Enfin, donc, il était assez fun à lire.
Vu qu'on est un petit peu sur un truc à la limite de la BD, moi, je vais recommander Shin Zero, qui est une collaboration de deux de mes auteurs favoris, je pense. Mathieu Bablet et Guillaume Singelin qui ont sorti le premier tome d'un manga, alors un manga à la française, hein, vu que c'est deux auteurs français qui dessinent ça. Ce sera en trois tomes et c'est des Sentai, donc il faut imaginer ces super-héros comme Bioman, les Power Rangers, voilà, mais dans un monde uberisé. Donc en fait les Sentai se sont battus contre des gros monstres façon Godzilla, etc. Ces monstres là ont disparu parce que les Sentai ont gagné. Qu'est-ce qu'il leur reste? Heureusement il y a des apps genre Sentai facile, les gens peuvent commander leur Sentai pour aller garder un magasin de fringues. Ils peuvent accepter des jobs sur l'app, ils se font noter avec des étoiles et voilà. Et donc là l'aventure suit un personnage principal qui va se retrouver avec d'autres Sentai comme ça dans leur vie quotidienne de Sentai uberisé. Mathieu Bablet au scénario, il écrit toujours des trucs cool. Guillaume Singelin au dessin, j'adore ses dessins. C'est incroyablement travaillé en plus. C'est vraiment très très beau là, à regarder, à lire. Sachant que moi je ne suis pas un lecteur de manga. C'est peut-être le premier que je lis et je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça un manga vu que c'est français. Et aussi, le format des Sentai, c'est pas quelque chose qui m'intéresse du tout. Mais connaissant les deux auteurs, là, je fais non, je prends. Ça aurait été de quelqu'un d'autre, j'aurais jamais acheté ça.
Et donc, Mathieu Bablet, il avait fait Carbon et Silicone, que tu avais aussi conseillé l'an dernier, ou il y a deux ans, je ne sais plus.
Ouais.
Et que j'avais du coup lu, et qui était vraiment très, très bien.
Qu'est-ce que tu avais d'autre comme recommandation?
Quand je parlais de choses un peu vieilles, on s'est mis à regarder tous les Miyazaki. On a pris la liste de tous les films où il était directeur, producteur ou écrivain, scénariste, pardon, en français.
Juste pour rappeler aux gens, donc Miyazaki, c'est principalement un directeur et producteur de films d'animation du studio Ghibli. Ouais, ça vous parlera peut-être plus.
Souvent, on dit les Ghibli quand on pense aux Miyazaki, mais Ghibli a produit beaucoup plus de films que juste ceux des Miyazaki. Je crois que Miyazaki en a fait 15, quelque chose comme ça, ou entre 12 et 15 dans le studio Ghibli, et il y en a au moins autant qui ont été produits et où lui n'a pas été sur la production ou la direction ou le scénario, justement. Parce qu'il y en avait plein qu'on n'avait pas vus, et donc on s'est dit, bon, on va tous les voir, et puis on va tous les regarder, mais dans l'ordre dans lequel il les a créés.
Ouais.
Personnellement, je conseille de les voir tous, en tout cas tous ceux que j'ai vus pour l'instant. Le prochain qu'on va regarder, c'est Princesse Mononoké. Donc, on a vu tous ceux qui sont près 1997. Moi, je n'avais jamais vu Nausicaa particulièrement, qui est vraiment bien. Donc, Nausicaa, c'est un film qui est basé sur un manga que lui avait écrit. Le manga est en 5 tomes et le film couvre, je crois, que le premier ou premier tome et demi, en gros. Donc, il y a plus derrière encore. Le film est complet en soi, hein. Il y a une vraie fin. Bon, comme toute histoire, de toute façon, il faut arrêter quelque part et il y a forcément quelque chose qui va se passer après. Mais le film est complet en soi. Ça m'a donné envie d'aller chercher les tomes même et de les lire, ce que j'ai toujours pas fait. Mais... Et puis sinon, dans ceux que j'avais pas vu, il y avait Porco Rosso aussi qui vaut le coup, vraiment. Il était assez intéressant. Je ne vais pas faire la liste complète parce que je trouve qu'ils vaillent tous le coup.
Ouais.
Kiki est particulièrement bien avec aussi un discours sur la créativité assez intéressant. Enfin, et puis là, Kiki, c'est vraiment visible par toute la famille. Je recommanderais d'aller voir ceux que vous n'avez pas vus.
J'en avais revu beaucoup en tas il y a une année et demie avant de partir en voyage au Japon pour un peu me replonger dans la culture. Et c'est très chouette de les voir de manière un peu condensée. Alors que moi, je les avais vus un peu au rythme des sorties à partir du début des années 2000. Quoi. De pouvoir en voir plein avec quelques jours, semaines d'écart, on se rend un peu compte des thèmes qui reviennent. Et du coup, c'est cool d'avoir ces éléments comparatifs.
Généralement, le lendemain qu'on a vu le film, on en rediscute un peu. Là, c'est le premier film où il n'y a pas d'armes du tout, par exemple. Il n'y a pas de contexte de guerre, etc. Donc, c'est assez intéressant de voir un peu les thèmes qui sont abordés au fur et à mesure, tout ce qui est commun entre chaque film. Et ouais, rigolo. Et ensuite, est-ce que toi, tu as autre chose ?
J'aimerais mentionner le livre qui vient de paraître de Rebecca Warrior. Le livre, c'est Toutes les vies.
Ok.
Rebecca Warrior, c'est une chanteuse que vous connaissez peut-être pour ce qu'elle fait dans Sexy Sushi, Compromat, Mansfield.tya. Elle a écrit là une autofiction. Je ne connaissais pas le terme autofiction. C'est en fait une autobiographie, mais légèrement romancée. Il y a quand même quelques petits détails qui ne sont pas forcément 100% réels, quoi. Mais la base est tout à fait correcte. Ça parle du cancer et malheureusement du décès de sa compagne. J'ai lu que les deux premiers chapitres, et c'était tout à fait OK dans ce qui se passe, quoi, parce que c'est les débuts, je pense. Mais apparemment, oui, il y a quelques... En tout cas, dans les critiques que j'ai pu lire avant d'aller acheter le livre, il y a quelques notes qui reviennent pour dire que c'est forcément pas très joyeux.
Oui.
Mais ça a l'air d'être très beau. Je vais gentiment me mettre dedans. Les gens disaient qu'une fois qu'on le commence, il se lit très vite parce qu'on est très absorbé. Et ça a vraiment été mon cas pour les deux premiers chapitres. Je voulais en lire que une ou deux pages pour voir. Et vraiment, je suis vraiment resté dedans. Le style est très chouette. Ça se base pas mal à base de lettres qu'elles peuvent s'écrire les deux. C'est peut-être ça le côté auto-fictionnel, justement. C'est qu'elles se sont probablement jamais écrit ces lettres, mais,
okay.
Mais que c'est juste pour raconter leurs expériences. Quoi.
Alors, je connaissais Rebecca Warrior. Je l'ai connue via Sexy Sushi, justement, au début. Et j'ai écouté un peu... tous les groupes qu'elle a créés.
J'étais aussi très surpris de la qualité des textes que j'ai lus. Là, je ne la savais pas aussi bonne autrice, en fait. C'est très bien écrit. Pour ta dernière recommandation culturelle, je vois dans la liste, tu as mis une démo. Si jamais ça ne vous parle pas, une démo, on a fait un épisode sur la démo scène.
Tu m'as envoyé ça il y a quelques... pendant l'été, quelque chose comme ça. Et donc, c'est une démo très récente, puisque je vois qu'elle vient de l'événement Révision 2025. Et elle est très impressionnante, parce que c'est une démo donc là sur catégorie vieil ordinateur. C'est sur un Amiga avec un processeur 60 060, et la démo est quasiment entièrement en 3D temps réel.
Des fois, il y a des scènes complètes et des fois, c'est un bout de 3D intégré sur de la 2D. Ouais.
Avec donc des machines qui n'ont jamais été faites pour ça et qui n'ont jamais été considérées comme capable de faire de la 3D, mais enfin c'est comme d'habitude avec les démos, ils repoussent les limites des machines le plus possible. Très impressionnant techniquement, et elle tombe pas, je trouve, dans cette pure technique, justement, qu'on avait pu discuter dans l'épisode. On sent qu'il y a certaines scènes où c'est la scène classique de « Ah, tiens, on va mettre un peu de zoom rotoscopique, on va mettre un peu de polygone en 3D qui bouge, etc. Mais là, c'est vraiment dans l'espèce de narration de la démo, quoi. C'est pas juste gratuit avec on passe un truc, puis un truc, puis un truc.
Toute la démo en elle-même, là, il y a un style visuel qui est cohérent de A à Z, et je trouve qu'il est super classe. En plus, le style visuel, il est beau et tout. Et puis, comme tu dis, il y a cette histoire, quoi, du loup rouge, qui est le nom de la démo, hein, Lupus Reditus, mais loup rouge.
Ouais, donc très, très impressionnant. Comme quoi, il y a toujours des choses nouvelles qui se font là-dedans. Et ils continuent de pousser ce que certaines vieilles machines arrivent à faire. Et vraiment, beau travail.
Ça dure que 4 minutes et c'est beau à voir. Ouais. Beau travail, comme tu dis.
Du coup, toi, tu avais encore un dernier partage, peut-être ?
Très court, en deux mots, j'ai découvert sur le tard, parce que ça existe depuis un bon moment, c'est justement le podcast Un bon moment, qui est animé par Kian Kojandi et Navo. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est les auteurs de Bref, qui sont plus que ça, hein, c'est des auteurs de multiples choses, des stand-uppers aussi. Et dans leur podcast Un bon moment, ils invitent des gens, j'ai l'impression qu'ils connaissent, parce que je n'ai pas écouté tous les épisodes. Et le but, c'est juste qu'ils passent un bon moment. Donc ils parlent de tout et de rien, et il y a de temps en temps des mini-jeux pour animer un peu le truc, mais qui sont là de manière un peu sympa. J'aime beaucoup le concept de multi-blind test. C'est d'essayer de retrouver les chansons, mais en fait, les 6 chansons sont diffusées en même temps. Donc superposées.
D'accord.
Quand tu trouves un des titres, il l'enlève pour que du coup, ça soit un petit peu plus clair, en fait.
Ah, ouais, intéressant comme idée.
L'idée est bien. Et en fait, je pense que c'est aussi un moyen de contourner le copyright strike. Tu n'entendras jamais une seule chanson. Parce que quand il en reste 2, il faut trouver les 2 dernières en même temps.
C'est malin.
Ce qui fait qu'il passera jamais la chanson au sol, tu vois.
Très, très malin.
C'est juste un prétexte pour rire. De temps en temps, ils se roastent entre eux aussi. Enfin bref, de manière générale, c'est juste de la tchatch entre amis autour d'un verre. Ça pourrait être ça. Ils pourraient être au bistrot en train de prendre l'apéro et discuter. Comme tout ce genre de podcast, c'est peut-être dépendant des invités. Moi, il y en a que j'irai jamais écouter, je pense, parce que je les connais pas, ça m'intéresse pas. Mais les gens qui m'intéressaient un peu, qui viennent les voir, j'ai vraiment entendu des trucs super chouettes.
En 2020, il y en a eu beaucoup apparemment d'épisodes, mais sinon, on a l'air d'être plutôt sur 10 épisodes par an, quelque chose comme ça.
Ouais, ça doit pas se faire
regarde
très,
la liste,
très souvent.
Là.
Donc, c'est disponible en podcast audio sur les plateformes de podcast, puis sinon sur YouTube, et là, c'est la version filmée.
Donc, ils sont tous dans la même pièce, du coup.
Ils sont tous dans la même pièce, ouais. Puis après, à voir, hein, peut-être filtrer un peu selon les gens qui vous intéressent ou pas.
Oui, je pense que c'est le genre de podcast où on va d'abord aller voir les gens qu'on connaît.
Et étonnamment, certaines fois, j'ai trouvé que les discussions étaient étonnamment profondes et pas juste que de se marrer. Il y a vraiment eu des trucs très intéressants. J'ai fait « Ah ouais, j'étais pas forcément venu pour ça, mais du coup, je suis resté aussi pour le... Oh, c'est vachement bien ce que vous dites Et c'est tout pour les recos, je crois.
Je pense. Donc, à propos de podcast, vous pouvez nous retrouver sur tâche-2-t.fm. De là, si cet épisode vous a plu, le partager à d'autres gens. Mettre des likes, favoris, ce genre de choses sur les épisodes, ça aide à ce qu'ils soient découverts automatiquement. Mais le mieux, c'est de le partager à quelqu'un directement. Si vous pensez avoir quelqu'un qui serait intéressé.
Nous, on se retrouve pour un prochain épisode dans quelques semaines.
Oui.
À bientôt.
À bientôt. Attends, il faut que je stoppe l'enregistrement et que je recommence.